Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la grogne sociale. Les grèves et manifestations se sont multipliées au Mali en 2018. Elles se poursuivent encore en 2019. Presque tous les secteurs ont été touchés. Et quelles sont les causes de cette grogne sociale? Et quelles solutions peut-on envisager? Le Grand Dialogue s'intéresse à ces questions. Nos invités sur ce plateau, Maître Agui Boubouaré, commissaire des droits de l'homme, Mohamed Aïdara, sociologue, Sbeti Ag Akado, membre de la société civile. Nos tentatives pour compter les responsables de l'UNTM et du ministère du Travail parmi nos invités sont restés vaines. Je suis Fatma Tatogola.
Le Grand Dialogue.
La non-satisfaction des doléances du syndicat auprès du gouvernement a créé une cessation de travail temporaire la semaine dernière. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Boiré. Quelles leçons faut-il tirer de ce mouvement qui a paralysé le pays pendant 3 jours?
Merci beaucoup, madame, de me donner l'opportunité de me prononcer sur cette question cruciale. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices, les auditrices et auditeurs de Studio Tamani, qui donnent toujours l'opportunité de mieux renseigner les populations sur les questions d'intérêt national. Je pense que 3 jours de cessation de travail, c'est très grave pour un pays. C'est très lourd de conséquences. Surtout, il s'agit d'une grève générale. Une grève générale d'une centrale vraiment très importante au Mali. Donc, les enseignements à tirer, c'est surtout au niveau du gouvernement. Il faudrait bien que le gouvernement change sa stratégie par rapport à ses rapports avec les organisations syndicales. Si je parle de changement de stratégie, il faudrait bien qu'on mette l'accent sur la nécessité du dialogue social. Dialogue social, pas que de nom, un vrai dialogue social, un dialogue social sincère et de bonne foi. Moi, je pense que ça, c'est très important dans l'approche des questions qui relèvent vraiment de l'ordre syndical.
D'accord. Voilà. Et vous, M. Aïdara, M. Boiré nous parle de dialogue social. Qu'en dites-vous?
Merci, madame, de m'accorder l'opportunité pour me prononcer sur cette question. Bien, le dialogue social, c'est très important. Et je vais ajouter à ce que M. Boiré dit. Il faut que désormais, qu'on prenne quand même au sérieux, c'est-à-dire les mouvements sociaux. Ce n'est pas qu'un seul syndicat. On voit qu'il y a une série de grèves qui se succèdent pendant ces dernières années. Donc, ils deviennent récurrentes. Hein. Ces grèves-là, elles sont récurrentes et on ne sait pas pourquoi. Tantôt, quand on demande les dirigeants des mouvements sociaux, c'est de la part du gouvernement. Et quand on interroge les membres du gouvernement également, ils pensent que c'est parce que d'exigences qu'on ne peut pas satisfaire. Donc, je pense qu'il faut être ouvert à un dialogue aussi national, c'est-à-dire franc et puis sincère.
D'accord. Alors, Monsieur Akado, en tant que membre de la société civile, quelle observation vous avez eu à faire concernant toute cette situation?
Bien, en fait, ce qu'il faut peut-être constater, c'est que depuis un certain temps, nous avons l'impression que ceux qui gouvernent, sont plus à l'écoute des agendas extérieurs que des Maliens.
Et que voulez-vous dire par là?
Je veux dire par là qu'au-delà de cette grève d'il y a quelques jours, beaucoup de grèves se sont déroulées ici. Et nous avons été souvent surpris d'entendre les plus hauts responsables dire qu'ils ne sont même pas au courant. Ça veut dire qu'ils ne se préoccupent même pas de ce qui se passe dans ce pays-là. Pour juste évoquer la grève des agents de la santé l'année dernière, vous vous rappelez, après presque un mois de mort, de gens qui mouraient dans tous les sens, le président de la République a eu le courage de dire qu'il ne savait pas que cette grève-là était en train d'être menée. Pour ne citer que ce seul exemple. Donc, des tueries au nord, au centre, des grèves interminables, montre, et malgré tout cela, aucun débat sérieux, aucun débat sincère n'a pu avoir lieu à cette date. Et n'est même pas programmé, parce qu'on nous parle de trucs sociaux. Allez-y voir comment ça va se passer. Donc c'est pour dire que ceux qui nous dirigent nous ont donné la preuve que le Mali ne les préoccupe pas. En tout cas, comme cela se doit, les attentes des Maliens sont pratiquement mises de côté. Seuls peut-être les agendas extérieurs, quand je le dis, je pense à la France, je pense à l'accord, tout leur langage, c'est l'accord. Ça, ils sont prêts à donner tout par rapport à l'accord, parce que c'est la France, c'est les Nations Unies qui veulent de cela. Donc c'est pour vous dire que l'UNTM va aller en grève. D'autres vont gréver. Les cheminots sont en train de croupir quelque part. Il y aura tellement de grogne. Et tant que les Maliens n'imposeront pas ce dialogue-là, parce que ce n'est pas les autorités qui vont l'imposer, c'est les Maliens qui ont la charge d'imposer ce dialogue-là pour réellement gérer les problèmes du Mali. Tant que cela n'aura pas lieu, on va continuer à compter nos crises.
D'accord. Alors, Monsieur Boiré, pourquoi tant de problèmes dans tous ces domaines ?
Bon, en fait, je voudrais apporter une précision peut-être avant de répondre à la question.
Oui, allez-y.
Parce que commissaire des droits de l'homme, ça peut paraître un peu bizarre pour nombre de personnes. Mm-hmm. Il faut dire quand même que le droit du travail est au cœur des questions des droits de l'homme. C'est au titre des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, vraiment, on est dans notre domaine lorsqu'on évoque les questions des grognes sociales. Mm. Bon, tant des grognes sociales au Mali, je pense que ça a une origine. Et nous, on l'a toujours dit, il faut prévenir les crises. Il faut anticiper les crises. Et il ne faut pas attendre que les gens en viennent à la pression ou au dépôt de préavis de grève pour s'occuper d'eux.
Et comment faire cela ?
C'est très simple. Il faut instituer un cadre permanent de dialogue avec toutes les organisations de la société civile, hein, spécifiquement avec les syndicats. Moi, je pense que dans ces cadres-là, dans un tel forum, on peut gérer beaucoup de problèmes, on peut anticiper beaucoup de problèmes. Parce que lorsque les syndicalistes ont l'impression d'être méprisés, il faut qu'ils en viennent vraiment à la méthode forte, à des dépôts de préavis de grève, pour que les gens acceptent de s'asseoir autour de la table de négociation. Ça devient problématique. Alors que tous ces problèmes, on peut les gérer quand on est animé de bonne foi, en instituant un cadre permanent de dialogue social. Et puis, il faut former les gens du gouvernement, hein, et puis les employeurs sur les questions de ces gens-là. Parce que beaucoup pensent que bon, les syndicalistes, c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est des bras cassés, c'est des gens qui n'aiment pas travailler. C'est une question de rôle. Chacun est dans son rôle. C'est des cadres, c'est des salariés de ces pays. Ils peuvent se retrouver de l'autre côté à un certain moment de leur carrière aussi. Donc il faut que les partenaires se respectent. Il faut sortir du mépris. Donc ça peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes.
Mais au point où nous en sommes actuellement, est-ce qu'on peut parler de cela ?
Ah oui, on peut parler de cela parce que, bon, nous, on peut le dire. Si je prends l'exemple précis de la grève qui vient de passer, il y a eu tellement de tentatives pour diviser les syndicalistes et pour saboter la grève. Ce n'est pas la solution, c'est la périphérie. Il faut s'attaquer au problème. C'est des revendications qui sont posées. L'État, s'il n'a pas les moyens de tout satisfaire, les dit clairement avec des arguments à l'appui. Mais il ne sert à rien de tourner pour essayer de diviser les gens, fragiliser les organisations. Ça va toujours rattraper. Donc ça, c'est ce que j'appelle une fuite en avant. Ce n'est pas nécessaire. Il faut changer de stratégie.
D'accord. Voilà. Et votre réaction, M. Aïdara ?
Concernant les causes, oui. Bien, les causes sont nombreuses. Il y a l'environnement international. Vous avez les causes socio-économiques. Si nous prenons du point de vue économique, c'est ce qui est visible. Après, je vais venir au niveau sociologique. Donc, vous voyez la cherté de la vie. C'est quelque chose qui devient international parce qu'on voit un peu ces grandes sociales un peu partout dans le monde. Et la réclamation principale, c'est quoi ? C'est que la vie est chère. Donc ça, c'est le niveau économique. Concernant le Mali, donc vous savez qu'au niveau social, c'est-à-dire à niveau de formation égal, la plupart des gens ou sinon tout le monde, réclame des conditions socio-économiques similaires. Ça, c'est normal, c'est une question de justice. Alors, donc, on voit que dans le traitement des différents agents et des différentes fonctions, il y a quand même quelques frustrations qu'on remarque, ce qui explique les différents mouvements, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, etc., etc. Alors donc, je pense que tant qu'on ne traite pas ça de manière assez approfondie, assez juste, il y aura toujours ces mouvements sociaux.
D'accord. Et vous, monsieur Akado, vous avez parlé que le gouvernement, la gérance du pays, vous avez parlé de cela, mais est-ce que le gouvernement, l'État est le seul à être blâmé?
Dans tous les cas, l'État est le premier responsable, n'est-ce pas? L'État, c'est le premier responsable de la gestion, n'est-ce pas, des affaires d'un pays. Quand je dis l'État, c'est quand même des organes qui sont là. Et malheureusement, je rappelle que la crise dans laquelle on est plongé depuis 2012, tellement d'ateliers, de conférences, de débats ont évoqué la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas? Tout le monde s'est accordé à dire que c'est la mauvaise gouvernance. Et à ce jour, on est en 2019, est-ce que la gouvernance a évolué de façon positive? Je dirais non. Je dirais non. Et c'est pourquoi vous voyez un cumul de crises. C'est parce que la gouvernance continue, n'est-ce pas, de dévier. Aujourd'hui, les Maliens sont dans une situation où c'est quelque part normal que ceux qui sont au pouvoir placent les gens ce qu'ils veulent à des postes. Ce n'est même plus, ça n'étonne personne aujourd'hui. C'est devenu la règle. À tel point que si vous faites des petites enquêtes autour, n'est-ce pas, des principaux responsables, en tout cas de la vie de ce pays-là, vous verrez que dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont des pantalons troués. Pour ne pas abuser, ce sont des gens qui portent, n'est-ce pas, qui ont des dossiers sales, qui ont des casiers judiciaires sales. Que ce soit au niveau des députés, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau... En tout cas, beaucoup de responsables, quelque part, sont vraiment des gens de moralité douteuse. Et c'est ce qui crée les frustrations dont on parlait, n'est-ce pas, les jeunes, tout de suite. C'est que, quelque part, le gouvernement ne fait aucun effort. Au contraire, il augmente les plaies. Et les frustrations, les injustices... Pour parler d'injustice, je ne peux pas occulter le fait que les Maliens ont l'impression aujourd'hui que ce sont ceux qui font plus de mal qui sont récompensés, pour faire allusion tout simplement au cas, n'est-ce pas, des séparatistes de la rébellion du Nord, qui sont couchés dans les hôtels aujourd'hui, ils sont bien traités, les Maliens les voient, et ça attise les tensions sociales, de savoir que ceux qui travaillent ne sont pas récompensés, pendant que ceux qui font du mal sont dans l'aisance. Ça, l'UNTM ne peut pas ne pas voir ça, les jeunes ne peuvent pas voir cela, etc., etc. Tous les Maliens sont atteints de cette maladie-là.
Alors, Monsieur Boiré, êtes-vous du même avis quand on parle de mauvaise gérance?
Bon, effectivement, la gouvernance est en cause, parce que, comme l'a dit le sociologue, l'origine de toutes ces frustrations, c'est l'injustice. C'est la non-récompense du mérite. Parce que de plus en plus, on voit les gens propulsés au sommet sans aucun mérite. Pendant que les plus méritants sont en train de trimer en bas. Donc, c'est des situations qui peuvent vraiment créer des frustrations énormes. Et lorsque ces frustrations se cumulent, le jour où ça explose, ça donne des situations de grogne sociale. Donc, la gouvernance est à revoir de ce point de vue. Il faut vraiment récompenser les mérites et encourager l'excellence. Et vraiment, comme l'a dit le doyen, il ne faut pas donner une prime à la rébellion. Quand les gens prennent des armes pour réclamer des choses, on voit qu'ils les obtiennent. Et d'autres qui triment sous le soleil, à la sueur de leur front, ils n'ont rien.
Et donc, quel impact cela peut-il avoir sur le pays?
Eh bien, c'est que Dieu nous en garde, ça peut avoir des conséquences vraiment très très lourdes, parce que c'est tout le système qui est attaqué. Oui. Donc, Dieu nous préserve, en cas d'explosion, nul ne sait à quoi ça peut aboutir. Donc on a vraiment intérêt à prendre les problèmes à bras le corps, à ne pas banaliser les choses, à ne pas aller dans la fuite en avant.
Voilà. Oui, M. Agado.
Juste 30 secondes pour dire que les conséquences, c'est pratiquement une implosion sociale. Vous voyez, juste un exemple pour dire qu'on est à 36 000 combattants dans le Nord qu'on doit dédommager, je ne sais pas, réinsérer. L'autre jour, les autorités se déplacent à Mopti. Là aussi, on parle de DDR. Ça veut dire que prenez les armes, vous êtes employés. Et Dieu seul sait combien de milliers vont postuler, n'est-ce pas, au DDR de Mopti. Si dans le Nord, tout le Nord ne fait que 1 million, quelques habitants, le centre fait plus de 4 millions. Alors attendez-vous à des milliers et des milliers de gens qui vont chercher des armes pour aller. Donc vous voyez, les autorités même encouragent cette volonté, n'est-ce pas, d'obtenir quelque chose par la violence. Et c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que nos autorités ne sont pas en train de faire exprès pour amener ce pays-là dans une sorte de chaos généralisé? C'est trop fort, mais à l'analyse, il y a quelque chose à
faire. Oui, M. Edara.
La gestion, la gouvernance, je pense qu'on doit améliorer la formation même des dirigeants. C'est une question qui se pose avec acuité. Parce que, comme vous le dites, des gens qui se trouvent au sommet comme ça, sans aucune référence, sans aucune expérience. Alors, la formation s'impose dans le leadership, dans les négociations, notamment entre employeurs et employés, dans l'attribution des primes, indemnités, émoluments, etc., etc., pour qu'on puisse quand même instaurer une société de méritocratie. Alors, vous voyez, c'est le problème principal du Mali aujourd'hui. Ce n'est pas un manque de cadres, nous en avons assez. Mais le mérite n'est pas récompensé. C'est ça le problème principal. Et tant que, et tous les sociologues du travail vont vous le dire, tous les spécialistes du travail vont vous le dire, lorsque le mérite n'est pas encouragé, alors donc vous allez voir que les cadres les plus méritants, dans le meilleur des cas, vont cesser de coopérer correctement. Dans le pire des cas, vont jouer contre. Alors, donc, ça peut amener une implosion sociale, un problème de solidarité sociale et un problème de gouvernance à l'échelle globale. Alors, donc, je pense que le problème de formation est récurrent.
D'accord. Alors, oui, vous voulez réagir?
En fait, j'ai pris la parole juste pour compléter. Mm-hmm. Donc, c'est sur le même sujet. Mm-hmm. Il faut absolument faire beaucoup attention. Il faut faire attention à ces pratiques qui font que on néglige certains aspects de la gestion d'un pays. Je prends juste l'exemple que je connais le mieux, c'est ce qui est en train de se passer dans les régions du Nord. Imaginez que les préfets des régions du Nord, les autorités intérimaires, tout ce qui est en train d'être nommé dans le Nord aujourd'hui est décidé ici à Bamako par des personnes souvent qui ne connaissent rien du Nord, qui prennent les gens selon, n'est-ce pas, leur bon vouloir, et les autorités, le pouvoir est là, il ne fait rien pour, n'est-ce pas, contrôler ou bien pour savoir est-ce que ceux qui sont en train d'être nommés méritent d'être là, ou bien est-ce que ce ne sont même pas des étrangers. Le pouvoir ne prend aucune précaution. Je vous le dis, c'est très grave. Donc dans ces conditions, imaginez ce que ça peut créer comme frustration chez les populations qui sont là, sur lesquels on vient parachuter des dirigeants, des gens qu'elles ne connaissent même pas. Alors que les gens sont supposés avoir pris les armes pour, n'est-ce pas, améliorer la gestion de leur pays. Et l'État ferme les yeux sur des Libyens, des Algériens, des Tchadiens qu'on vient, on les nomme à la tête, n'est-ce pas, de nos autorités intérimaires dans le nord du pays. On laisse faire. Et c'est ça aussi les germes, sinon le terreau sur lequel vraiment l'implosion sociale aura lieu bientôt.
D'accord. Alors, Monsieur Boiré, oui, on entend, il y a eu tant de grèves, tant de manifestations, mais direz-vous que toutes ces revendications-là sont légitimes ?
La plupart des revendications, pour ne pas dire toutes les revendications, sont légitimes. Parce que les organisations syndicales sont créées pour revendiquer une amélioration des conditions de travail et puis des conditions de vie. Donc on ne peut pas dire que c'est des revendications fantaisistes. Une organisation syndicale qui se respecte ne se lève pas à midi pour poser des revendications. C'est des questions réfléchies à l'avance, c'est des études préliminaires qui sont menées. Ensuite, le gouvernement est approché. Et on ne va pas tout de suite à la grève. Il faut que les gens comprennent cela. Il y a un long processus à observer. Donc, il est important que dans le cadre de l'anticipation, on puisse plutôt gérer les problèmes que d'attendre les dépôts des préavis pour s'occuper vraiment des revendications. Je les trouve pratiquement toutes légitimes, parce que la cherté de la vie aujourd'hui au Mali, tout le monde sait, la vie est excessivement chère. Et puis les prix des denrées de première nécessité prennent l'ascenseur et après ça descend plus. Ça, c'est un phénomène particulier au Mali. Il n'y a aucun mécanisme de régulation des prix. Donc, alors que parallèlement, les salaires ne bougent pas. Donc, je pense que les travailleurs, ils ont le droit de revendiquer une amélioration des conditions.
Mais on a
eu
à faire face à des divisions de syndicats.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire. J'ai dit que c'est des stratégies qui sont vouées à l'échec. C'était une façon de gérer il y a un certain temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est des stratégies qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus fonctionner. Vouloir diviser pour mieux régner, bon, on peut avoir quelques brebis galeuses à entraîner, mais après, la majorité, quand même, les gens sont éveillés, les gens comprennent les choses. On ne peut pas les traîner par le bout du nez. Quand on pose des revendications, les travailleurs se reconnaissent dedans, ils se retrouvent dedans et puis ils les défendent. Donc, tout ça, c'est des choses déplorables. Vouloir diviser les syndicalistes, vouloir monter des personnes pour saboter les mouvements ou les actions syndicales, ça n'ira nulle part. Il faut faire face aux problèmes, les prendre à bras le corps et trouver des solutions qu'il faut. Et dans la plus grande sincérité et dans la plus grande franchise. Je pense que c'est, la solution viendra de là.
Alors, M. Aïdara, M. Akadou a parlé d'un aspect. Et pour ajouter à cela, certains observateurs pensent que ces grognes sociales donnent l'impression que l'État ne se soucie guère du sort de son peuple. Êtes-vous du même avis?
Bon, je vais nuancer un peu. Ce n'est pas que l'État ne se soucie pas du sort de ses populations. L'État est dans son rôle. N'oubliez pas qu'on dit que l'État, c'est un Léviathan. Les philosophes savent de quoi il s'agit. Ça, c'est un monstre froid qui n'a que des intérêts, il faut comprendre. Et l'intérêt de l'État, chaque fois, même le problème du syndicalisme pluriel, c'est normal sous la démocratie. Et toujours, l'État va chercher à vous mettre dos à dos pour en tirer profit. Maintenant, c'est à vous de comprendre ce jeu et de ne pas entrer dans ce jeu et revendiquer l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Sinon, un État, ce n'est pas que l'État malien, c'est tous les États, ils sont comme ça. Bien, maintenant, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, il y a un problème qui est général au Mali. On voit maintenant la marche des fonctionnaires, etc., etc. Mais on ne se pose pas la question quel est le sort des populations rurales dans tout ça. Personne ne se pose cette question et il ne marche pas. Mais bien sûr, on dit que l'État fait d'énormes efforts pour l'amélioration de leurs conditions de vie, d'accord, mais quand même, ceux qui marchent généralement, c'est ceux qui ont une certaine conscience syndicale assez élevée et qui peuvent poser des revendications en termes justes et mener des gens dans l'atteinte de l'objectif. Alors, mais quand on prend la grande majorité de la population malienne, on voit que c'est un problème qui se pose. Et la sous-région, je pense que dans la sous-région, le Mali est à la traîne sur ces sujets.
D'accord. Alors, M. Akadou, M. Aïdara vient de nous parler de quelque chose tout de suite. Vu qu'il y a certains qui marchent, mais ceux qui ne marchent pas, est-ce que leurs attentes sont prises en compte ?
Ce qui ne marche pas, c'est-à-dire, je n'ai pas compris.
Les populations rurales.
Qui n'ont pas une conscience, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas de syndicats, qui n'ont pas de mouvement social pour défendre leurs intérêts. Il s'agit de ces gens. C'est la grande majorité des Maliens qui ne relèvent pas de la fonction publique ou qui ne sont pas des salariés, mais qui sont dans les espaces ruraux, dans les campagnes.
En fait, quand j'avais dit que l'État, on a l'impression que l'État ne se soucie même pas du sort du peuple. C'est ce que ça veut dire. Vous avez des analphabètes, vous avez des zones rurales qui ont des problèmes de tout genre. Pendant ce temps, l'État fait des commandes de centaines et de centaines, n'est-ce pas, de V8. C'est de l'insouciance, ça, ou bien c'est du mépris. C'est quoi? Pendant que d'autres travaillent, d'autres sont couchés et ils dévorent tranquillement les impôts de ceux qui travaillent. C'est quoi ça? C'est de l'insouciance, c'est du mépris pour le peuple. Pendant que certains meurent, n'est-ce pas, l'État ne fait rien. Il a fallu que la France fasse l'autre jour, attention, il y a quelque chose qui se prépare à Mopti pour que le président de la République se transporte à Mopti. Il y a eu combien de morts, n'est-ce pas, combien de carnage dans la zone de Mopti? L'État n'a jamais dit un mot. Il a fallu que la France, l'autre jour, attire l'attention pour qu'il parte voir. On comprend tous ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour dire que nous constatons des faits et c'est sur la base de ces faits-là que nous avançons un certain nombre de propos. Moi, je pense qu'un État qui se soucie de son peuple ne peut pas refuser une concertation nationale de 2012 à aujourd'hui. Il n'y a pas eu une seule concertation nationale. On a simulé ce que l'on a appelé à l'époque... la conférence d'entente, quelque part là. Tout le monde a compris que c'était un simulacre. C'est un simulacre. Et aujourd'hui, l'État n'a pas dans son agenda des concertations véritables qui mettent les Maliens les uns devant les autres et prendre les problèmes les plus aigus et les débattre. Ça, quand on se soucie de son peuple, de son pays, on le fait. On n'a même pas besoin que les populations le demandent. On est tombé là. Il est temps qu'on
parle. M. Boiré.
Bon, je pense, contrairement à ce que le sociologue dit, je pense que les syndicats prennent en charge les revendications du monde rural. Hein. Il y a le secteur informel. Au-delà même du monde rural, il y a le secteur informel qui est pris en compte dans les revendications. Parce que la question d'emploi décent, ça concerne surtout cette population. Donc il n'y a pas que les travailleurs, quoi. Deuxième chose, l'une des causes de la grogne sociale ou vraiment de cette difficulté à gérer les crises sociales, c'est l'émiettement syndical, il l'a dit. Moi, je l'appelle l'émiettement syndical ou la prolifération syndicale. C'est bien entendu l'État qui est derrière, mais ce n'est pas normal. L'État ne doit pas s'immiscer dans les activités syndicales. Ça devient de l'immixtion illégale dans les activités syndicales ou des entraves graves à la liberté syndicale. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et c'est pour cette raison que le principe de la liberté syndicale a été institué. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un encouragement à créer plusieurs organisations syndicales. C'est empêcher l'État plutôt à créer et à imposer un seul syndicat. Donc c'est aux travailleurs de prendre conscience, parce que la maxime phare des travailleurs du syndicalisme, c'est prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Nulle part au monde, vous n'avez vu des organisations syndicales triompher lorsqu'elles sont une multitude. Donc vraiment, elles ont intérêt à se réunir, à constituer une seule organisation syndicale. Nous devons le 26 mars 1991 une seule organisation syndicale. Parce que la force d'un syndicat, c'est la force de persuasion. On ne peut pas persuader lorsqu'on n'est pas capable de mobiliser une masse critique, voire tous les travailleurs du Mali, par exemple. Qu'est-ce qui peut résister à une telle arme? Mais malheureusement, les travailleurs ne peuvent pas tous comprendre cela. Il y a des jeux d'intérêt individuels, il y a d'autres qui s'occupent de leurs petits intérêts individuels immédiats, il y a d'autres qui ont des ambitions politiques, qui cherchent des postes, et qui passent par les organisations syndicales. Donc il y a vraiment le bazar au niveau des nombres de ces organisations syndicales, quoi.
Mais le gouvernement a-t-il les moyens de faire face à toutes ces revendications ?
On ne peut pas dire que le gouvernement a le moyen de faire face à toutes les revendications. Mais les essentiels, c'est lors du dialogue qu'on peut savoir ce que l'État peut prendre en charge. Parce que même si les gens ne sont pas dans le gouvernement, ils ont une idée des capacités de l'État. Surtout lorsque l'État même se glorifie d'être la troisième économie de la sous-région, ou si tous les signaux sont au vert, comme on aime le dire à chaque visite du FMI. Donc, naturellement, les gens sont fondés à croire que les moyens existent pour satisfaire leurs revendications.
Voilà. Oui.
Bien, d'accord, je veux quelques précisions. Je pense que le pluralisme syndical, c'est quelque chose qui est normal sous la démocratie. C'est-à-dire on ne parle pas de l'aspect juridique en tant que tel, et qu'il y ait des organisations syndicales qui grèvent pendant que d'autres travaillent, ça c'est quelque chose qui est normal également dans le pluralisme démocratique. On le voit un peu partout en France, vous avez le CGT, vous avez Force ouvrière, vous avez etc.
Mais que disent les textes?
Les textes défendent la liberté syndicale, voilà. Mais les textes ne disent jamais encourager les travailleurs à aller à la prolifération syndicale. Moi, je n'appelle pas ça le pluralisme. Prenez des pays comme la Chine, il n'y a pas de syndicats. On va dire que c'est des pays communistes, mais bon, la France n'est pas une référence en matière de liberté syndicale. Toutes ces créations sont inspirées du même objectif de désorganiser les travailleurs, c'est tout. Sinon, l'idéal pour les travailleurs, c'est d'être unis en une seule organisation syndicale.
Voilà. Bien. J'ai une autre position, Monsieur Boiré. Je pense que sous la démocratie, les travailleurs n'ont pas les mêmes intérêts. Ça, il faut convenir. Hein. Les travailleurs n'ont pas les mêmes intérêts. Et on ne peut pas obliger les gens à adhérer dans une seule centrale syndicale. C'est un peu de la dictature. Je pense que du moment que les textes accordent aux gens, alors donc la liberté syndicale, maintenant les syndicats, on est libre de créer des centrales syndicales. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? C'est que l'État parvienne à mettre dos à dos les travailleurs dans ce pluralisme. Sinon, ce n'est pas que la France. Si vous prenez n'importe quel pays développé, bon, la Chine, c'est un pays communiste. Et sous le communisme, c'est l'État qui fait un certain dirigisme politique et économique. Mais quand même, dans toutes les démocraties plurielles, il y a cette pluralité syndicale. Et ça ne nuit pas du tout au syndicalisme, contrairement à ce que les gens pensent.
Et pour revenir, oui, aux moyens du gouvernement face à cette situation.
Bien, les moyens du gouvernement, ça c'est, comme M. Boiré l'a dit, là je partage ses idées, comme on voit, il y a quelque temps, les agents du FMI, de la Banque mondiale sont venus, on dit que les indices économiques, tout est au vert. Alors donc, les gens sont en droit de se poser la question. Et surtout, au départ, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que à condition économique égale, on revendique à peu près les mêmes choses, aussi bien du point de vue consommation que du point de vue d'accès à d'autres ressources. Alors donc, comment on peut comprendre que certains secteurs ont des salaires assez élevés, très très élevés, qui fait 3, 4 fois, 10 fois parfois, dans d'autres secteurs. Ce n'est pas normal dans un pays. Ce qui crée des frustrations. Par exemple, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais quand on voit dans un certain nombre de secteurs, on voit qu'il y a toujours la gabegie qui est là.
Oui, M. Akadou.
Oui, en fait, les moyens, nous, on ne peut jamais dire que l'État n'a pas les moyens. Nous sommes à peine 18 millions de Maliens. Et nous avons des ressources enviées par le monde entier. La preuve, elle est là. Tous les Européens cherchent, n'est-ce pas, à mettre leur nez dans nos affaires. Ce n'est pas parce qu'on est beau ou bien parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'il y a des ressources. Les Chinois sont là, les Vietnamiens sont là, les Américains sont là. Tout le monde vient puiser des ressources. Alors, est-ce que nous, on peut dire qu'on n'a pas les moyens? On a les moyens. Mais ce qu'on n'a pas, encore une fois, c'est peut-être la volonté de bien gérer, de bien distribuer, de bien répartir, de bien défendre nos richesses. Parce qu'on ne défend rien. Les autorités depuis cette histoire de démocratie-là sont entrées dans un processus où je suis au pouvoir, allez, je me sers. j'oublie les autres. Et malheureusement, quand vous oubliez les autres, ceux qui ont les moyens viennent vous prendre même ce que vous avez. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons d'énormes richesses par notre coton, par notre or, par l'office du Niger, par quoi et quoi, la volonté des Maliens de sortir de ce pays-là et de ramener de l'argent. Nous sommes réellement très engagés. Malheureusement, tout est mal géré. Et quand tout est mal géré, ce qui se crée, c'est ce que vous voyez. Vous avez un État qui ne se pose pas des questions, il augmente des primes par là, il fait la sourde oreille pour d'autres, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas monter les indices de certains fonctionnaires et laisser d'autres. C'est du n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que les gens vont rester dans des situations de frustration, dans des situations de grogne. Il suffit tout simplement d'arrêter, n'est-ce pas, ce vagabondage dans la gestion et de dire un ministre n'a pas droit à 1000 fois le salaire, n'est-ce pas, d'un autre fonctionnaire. Le monsieur qui dort dans un hôtel qui ne fait rien n'a pas droit à prendre 3-4 salaires pendant que celui qui cherche du travail n'arrive pas à trouver du travail avec son diplôme. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas dire que l'État n'a pas les moyens. L'État n'a pas la bonne volonté. Je ne suis pas un opposant, mais je suis suffisamment âgé pour, n'est-ce pas, dire ce que je suis en train de dire. J'ai eu le temps de voir ce qui se passe et malheureusement, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui étaient là depuis plus de 20 ans. Ils ne sont pas en train de corriger ces déviations-là. S'ils ne les encouragent pas, ils ne sont pas en train de les corriger. Et c'est pourquoi on n'aura jamais de solution tant qu'ils seront aux affaires.
Vous êtes sûr?
Je suis sûr qu'ils ne sont pas capables d'apporter des changements dans ce pays-là. Ils étaient là, ils aiment tourner les gens pour dire « on a trouvé ça ici ». Quand ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disent qu'on a trouvé, ils ont trouvé quoi? Ils étaient avec ATT, ils étaient avec Alpha, ils étaient avec l'autre là aussi, avec Moussa. Ils étaient tous là.
Oui, alors M. Boiré a du même avis que M. Akado. Quand
ils
ne
peuvent pas corriger la corruption.
De pas de solution.
Ils ne peuvent pas.
Dans ce cas-là.
Non,
le peuple peut leur imposer. Voilà,
la solution va résulter vraiment de concertations nationales.
C'est tout. Enfin,
il faut qu'il y ait des concertations de façon inclusive. Que l'exemple de la conférence nationale de 91, parce qu'il faut faire une remise à plat. Il y a tellement de difficultés dans le pays qu'il faut se donner le temps vraiment d'organiser un forum sérieux pour débattre des questions. Parce que c'est des questions existentielles. On ne peut pas les banaliser ou les négliger ou faire de la fuite en avant. Ça va toujours nous rattraper. Il va falloir qu'on s'asseye à un certain moment et regarder les problèmes en face et prendre des solutions draconiennes.
Mais quels sont les besoins actuels?
Besoin, tout est prioritaire en fait. Dans ce pays, tout est prioritaire. Il y a tellement de difficultés. Tu prends tous les niveaux, tous les secteurs, il y a des difficultés énormes. Donc, on ne peut pas, en termes de priorité, dire voilà, c'est la santé ou c'est la justice ou c'est l'armée, c'est l'école. Vous prenez tous ces secteurs, il y a des problèmes sérieux. Donc, il faut vraiment.
Mais est-ce réellement possible de trouver une solution à tout ça globalement?
Non, on peut trouver la solution. C'est une question de volonté politique, comme l'a dit le doyen. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut prendre des décisions qui s'imposent. Et ça peut frapper tout le monde et être préjudiciable à tout le monde, mais c'est des décisions à prendre si on veut sortir de l'ornière.
Oui. Et vous, M. Aïdara, qu'avez-vous à nous dire en termes de solutions?
La solution, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Ça peut blesser certains. Je pense qu'il va falloir faire une révision du système des salaires et d'émoluments en République du Mali.
Mais là où nous sommes actuellement, cela est-il possible, réellement possible?
Je pense que c'est possible. Avec la volonté politique, c'est possible.
Mais mis à part cette volonté politique-là, comment?
Si, mis à part la volonté politique, c'est le bas qui va faire pression sur le haut. Et là, je pense que ça peut amener à des dérapages. C'est-à-dire que lorsque l'injustice devient, comment on appelle ça, intolérable, la population peut se soulever. Et là, je pense que ça, ce n'est pas souhaitable pour le pays, parce que nul ne sait là où ça peut nous amener. Donc, en termes de solutions, je pense que les solutions existent. Et il faut faire une relecture. Et regardez les revendications. Très souvent, on dit il faut nous mettre au même niveau que nos collègues de l'UEMOA. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. D'autant plus que le pays est la troisième économie de l'UEMOA. Alors, donc, qu'est-ce qui empêche le pays de ramener alors, les fonctionnaires au même niveau que leurs collègues de la sous-région?
Mais est-ce que les réalités sont les mêmes dans chaque
mais
pays?
Les réalités sont les mêmes. Si on prend en termes de comparaison, comparaison n'est pas raison, mais ça peut nous donner quand même quelques éclairages. Si on prend le nombre de fonctionnaires en Côte d'Ivoire et au Mali, ceux de la Côte d'Ivoire dépassent de loin. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais les derniers chiffres, c'était plus près du double. Alors, donc, comment est-ce que cet État peut faire face à ces charges et qu'au Mali, ici, on ne parvienne pas quand même à attribuer le salaire moyen à des pays de l'UEMOA? Ça, c'est incompréhensible. Je pense qu'il faut quand même une volonté politique et faire une relecture de l'ensemble des émoluments en République du Mali.
Oui, M. Boiré, oui.
Je crois que c'est possible et c'est tellement. Il y a certaines organisations qui ont demandé ça il y a longtemps, mais on ne veut pas vraiment s'occuper de la question. Au point qu'aujourd'hui, le statut général de la fonction publique est devenu un statut particulier, parce que tout le monde est sorti pour aller négocier et revendiquer son statut particulier. Donc, il faut profiter de l'occasion pour vraiment réunir tous les éléments par rapport au salaire, c'est pas compliqué. On a les données. Donc, et puis, catégorie par catégorie, à travail égal, salaire égal, à diplôme égal, salaire égal. Maintenant, par rapport au poste que les gens occupent, les primes peuvent varier. Et je pense que j'ai cru lire ça dans les revendications de l'UNTM. C'est un des points. Ça permet de corriger des injustices. Parce que tant qu'on ne s'attaquera pas aux injustices, il y aura toujours des grognes sociales. Il y a un autre problème par rapport à la
mais
question.
Mais d'autres pays font face à des injustices, mais ils ne sont pas face à ces grognes sociales-là.
Comment?
Je dis d'autres pays font face à l'injustice, mais ils ne sont pas dans cette situation de grogne sociale.
Non, je ne crois pas que leur injustice ait atteint le niveau du Mali. Parce que vraiment, vous allez voir des gens qui ont fait les mêmes études, les mêmes années, les mêmes diplômes, mais vous verrez que entre les rémunérations, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est des situations qui, tôt ou tard, vont donner lieu à des explosions. D'accord. Donc, il vaut mieux vraiment prendre le problème très au sérieux et puis proposer des solutions idoines, quoi.
Oui, Monsieur Akadou.
Avec
oui.
votre permission,
oui.
Laissez-moi vous dire que nous sommes dans une situation où le régime en place, nous n'avons jamais connu un régime aussi inféodé aux ordres de l'extérieur, plus que ce régime-là. Et tant que ce régime ne cessera pas, ne diminuera pas en tout cas, d'appliquer les agendas de l'extérieur, on ne s'en sortira pas. Nous ne sommes pas ce pays-là qui va se contenter de dire « notre cas est unique, il n'a pas de solution ». Et en question, admettons, non.
Mais selon quelle stratégie mettre en
place ? Les stratégies, encore une fois, les préalables, c'est les concertations des Maliens. Rien ne peut être arrangé si on occulte, si on met de côté cela. Nous sommes un pays repère en Afrique. Nous sommes un pays repère pour nos civilisations, notre cursus. Nous aide, n'est-ce pas, à nous asseoir et à sortir des solutions. Pourquoi on nous refuse cela? Parce que la France ne veut pas de cela. Parce que la France a son agenda et il faut que cet agenda la passe. Il faut que dans la bouche de nos dirigeants, seul l'agenda de la France prime sur nos concertations. Tant qu'on ne va pas, tant qu'on va accepter cela, on ne s'en sortira pas. Et pour s'en sortir, il faut qu'on brise, n'est-ce pas, cet ordre de la France-là qui veut que c'est son agenda qui va passer avant l'agenda des Maliens. Et ça, encore une fois, les syndicalistes, le pouvoir, les religieux, tout le monde doit se mettre à ça. Si on s'assoit, on va trouver des formules. On va trouver trouver des solutions, inévitablement. On est suffisamment riche pour bien partager la justice, pour bien partager les biens de ce pays-là. Si on ne le fait pas parce qu'on veut, orienter tous nos efforts vers l'achat de ce que la France a comme véhicule, de ce que la France a comme arme, de ce que la France veut faire de nous, on ne s'en sortira pas.
D'accord. Et malheureusement, on est rattrapé par le temps. Et cela me fait à ce débat sur la grogne sociale. Un grand merci à nos invités. Maître Agui Boubouaré, commissaire des droits de l'homme, Mohamed Aïdara, sociologue, Spéti Ag Akado de la société civile. Je tenais à vous rappeler que nos tentatives pour compter les responsables de l'UNTM et du ministère du Travail parmi nos invités sont restées vaines. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Sedundao. La régie vient est assurée par Petit Ndiara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Merci beaucoup.
Grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mandé.
Chenne Beri, Siki Kafoba.
Le grand dialogue.